Après le baccalauréat, alors que tous les élèves réputés intelligents tentaient HEC ou Polytechnique, voire Centrale, Ponts et Chaussées ou les Mines de Paris, Déodat fit des études de biologie à la Sorbonne et puis se spécialisa en ornithologie. Il consacra sa thèse de doctorat à la Huppe, Fassier. Les professeurs, intrigués par ce jeune homme d'une laideur à ce point remarquable, le surnommaient Riquet à la Huppe. Il approuva ce sobriquet dont il salua la justesse étymologique, Huppe et Huppe, constituant les deux versions du même mot. Ce surnom lui allait d'autant mieux que, comme le personnage de Perrault, il plaisait à tous et particulièrement aux femmes. Avec le temps, il cessa d'accepter leurs si nombreuses avances et devint même très inaccessible, ce qui ne fit que renforcer sa réputation. Quand il eut 23 ans, le médecin qui le suivait décréta qu'il pouvait désormais se passer de corset qu'il portait depuis 8 années. « Le mal est stabilisé, » dit le docteur en l'observant. « Je suis guéri, » traduisit Déodat. « On ne guérit pas d'une syphose. Mais votre adolescence est terminée sans que le mal empire. C'est un succès. » Le jeune homme ne parvint pas à se réjouir d'un tel constat. « Ne tirez pas cette tête. Vous allez pouvoir vivre sans corset. N'est-ce pas une bonne nouvelle ? Je sens arriver une clause qui me plaira moins. » Vous allez devoir faire 5 heures de kinésithérapie par semaine. Nous y voilà. Il faut vous muscler le dos, conclut le médecin en inscrivant le nom et les coordonnées d'un kiné sur l'ordonnance. En sortant du cabinet, Déodat ressentit un vertige à marcher dans la rue dans cette camisole de force qui le rigidifiait. Au bout de 2 heures, il dut convenir que quelque chose clochait. Il était épuisé de devoir compenser par ses pauvres muscles l'absence de l'armure qu'il commençait à regretter. La position assise ne le reposait même pas. Il prit rendez-vous chez le kiné. Une secrétaire lui répondit que le docteur Led le recevrait le lendemain à 17h. Le docteur Led était une Hollandaise d'une 30aine d'années, au beau visage sérieux, juché sur un long corps de sportive. Elle examina le dos du patient. Il frémit au contact des grandes mains pleines de science. Elle se posta avec lui sur un tatami, face à un immense miroir. « Je vais vous apprendre les exercices. Faites comme moi. » Face au miroir géant, Déodat exécuta les mêmes mouvements que le docteur Led. La comparaison entre les deux corps était humiliante pour lui. Il en eût conçu de la honte s'il n'était pas tombé presque aussitôt amoureux de l'imperturbable kinésithérapeute. Après 50aine de minutes d'exercice, elle lui ordonna de s'allonger sur une couche de cuir molletonné et elle lui massa le dos. Il en éprouva un plaisir tétanisant. « J'aurais voulu que vous n'arrêtiez jamais, » dit-il, quand elle le fit se relever, puis s'asseoir devant son bureau. Sans sourciller, elle prit des notes dans un carnet. « Vous ne devriez pas vous appeler Led, » dit-il encore. « On prononce Led, » répondit-elle, en femme habituée à de telles réflexions. Elle lui fixa rendez-vous chaque jour de la semaine à 17h pour 1 heure. Lui, qui avait envisagé cela comme une épreuve, regretta qu'il n'y eût pas plus de rendez-vous. « Ça ne suffira pas, » déclara-t-il. « En effet. » C'est pourquoi vous ferez 20 minutes d'exercice chez vous chaque jour, ce que je vous ai enseigné en début de séance. Ce n'était pas là la réponse qu'il espérait. Dans la rue, il regarda l'enseigne. Sur la plaque de métal, il était inscrit S. Led, kinésithérapeute. Le lendemain, vêtu comme elle d'un jean stretch et d'un t-shirt, il lui dit pendant l'échauffement 100% des femmes qui ont compté pour moi avaient un prénom commençant par un S. Elle n'eut aucune réaction. Il se sentit lourd, mais poursuivit, et se terminant par un « A ». Gardez les pieds parallèles. Comment vous appelez-vous ? Saskia. Il en fut estomaqué. Que c'est beau ! Je n'ai jamais entendu ce prénom. La femme de Rembrandt s'appelait Saskia. Cette nouvelle le plongea dans l'émerveillement. Pour qui aime, découvrir que l'aimer porte un prénom admirable équivaut à un adoubement. On ne cristallise pas de la même façon selon que l'élu s'appelle Saskia ou Samantha. S'il vous plaît, concentrez-vous. Rappelez-vous que vous devez reproduire ces exercices chez vous. Il raffolait de la manière douce et neutre avec laquelle elle donnait ses instructions. Elle n'était jamais autoritaire en femme habituée à être écoutée. Et comment n'aurait-on pas voulu écouter sans cesse cette voix grave et ce curieux accent ? Il faut regarder mon corps et non mon visage, dit-elle encore. Il s'y efforça. Certes, elle avait un corps svelte et gracieux, mais c'était surtout son visage qui l'aimantait. Très brune de peau et de cheveux, une coupe courte avec une frange, coiffure qu'il n'aimait guère, mais qui lui allait très bien. des yeux verts aux grandes paupières, des traits immobiles, une expression sérieuse et douce en permanence, une attention aiguë portée au corps du patient, au détriment de ce qu'il disait. Le massage était un moment de pur bonheur. Elle le touchait, le brassait, le malaxait et il pouvait lui parler librement. « Pourquoi vivez-vous en France ?»«
J'ai épousé un Français. »
« Depuis combien de temps êtes-vous à Paris ?»«
8 ans. »
Il avait honte de lui poser des questions aussi banales. « Ma maladie est-elle fréquente ?»«
De plus en plus rare. »
« Combien de temps vais-je devoir avoir besoin de vos services ?»«
2 années. »
« Seulement ?»«
C'est beaucoup, 2 ans. » »«
Ça ne me suffira pas. » »«
Vous ferez 20 minutes d'exercice chez vous tous les jours de votre vie. » La séance se poursuivit en silence.
« 2 années. » « J'ai 2 années pour la rendre amoureuse de moi, pensa-t-il. »
Il n'avait jamais dû conquérir l'amour d'une femme. Les filles avaient toujours pris l'initiative depuis ses 15 ans. Pour la première fois de sa vie, la proie devait endosser le rôle du prédateur.
Déodat n'aima pas cette prédation.
Il aurait voulu s'inspirer de la parade nuptiale de l'oiseau jardinier qui créait un véritable parc floral miniature pour séduire l'oiselle. Il se contentait de passer chez le fleuriste avant chaque rendez-vous et d'acheter la fleur qui exprimait le mieux son sentiment du jour. Saskia remerciait poliment, mettait le cadeau dans un vase et commençait la séance. « Cela ne vous fatigue pas d'exécuter toujours les mêmes exercices avec moi ?»«
C'est mon métier, non, ça ne me fatigue pas. »
Son égalité d'humeur le déconcertait. Les seuls moments où il pouvait discuter avec elle étaient ceux des massages. Cela le désolait, car il aurait préféré profiter en silence du plaisir qu'elle lui donnait. Mais il fallait bien qu'il parvienne à l'intéresser. « Je suis ornithologue », annonçait-il au bout de quelques séances. Il avait l'habitude que cette déclaration produise son effet. Saskia se contenta de répondre.
« C'est un beau métier. »
Rebondir là-dessus ne fut pas facile. « Vous, au moins, vous ne me demandez pas à quoi cela sert. C'est une question qui me hérisse. » Nous vivons dans une société où il faut que les choses servent. Or, le verbe « servir » a pour étymologie « être l'esclave de ». Et s'il y a bien un animal qui incarne l'idée de liberté, c'est l'oiseau. On croit habituellement qu'un ornithologue travaille à la protection de l'espèce aviaire. Ce n'est qu'une partie de son travail. Pour moi, l'ornithologie consiste aussi à suggérer à l'homme d'autres pistes. Saint François d'Assise est à ce titre un ornithologue selon mon cœur. Lui qui proposait à l'homme l'insouciance des oiseaux. Le problème est qu'il n'y connaissait pas grand-chose, car en vérité, la liberté des oiseaux ne repose sur aucune insouciance. Ce que l'oiseau nous apprend, c'est que l'on peut être libre pour de bon, mais que c'est difficile et anxiogène. Ce n'est pas pour rien que cette espèce est toujours sur le qui-vive. La liberté, c'est angoissant. Contrairement à nous, l'oiseau accepte l'angoisse. Il se tut, attendant une réaction qui ne vint pas. Saskia le massait avec application. Étudier l'oiseau, c'est s'intéresser à une expérience radicalement autre. On me demande parfois comment éviter l'anthropomorphisme, la propension à tout interpréter de notre point de vue. Les 3/4 du temps, les comportements aviaires sont incompréhensibles. L'erreur consisterait à vouloir les traduire. Il est merveilleux de respecter leur opacité. C'est aussi ce qui confère à cette espèce une aussi authentique noblesse. La grande majorité de ses actes n'ont pas d'utilité. L'ennui de parler en étant allongé sur le ventre, c'est qu'on ne voit pas l'expression de son interlocuteur. Vous vous en fichez de ce que je vous raconte ?
Non, c'est très instructif.
Instructif ? Il eut du mal à supporter le mot. Instructif ? Ça sonnait comme une insulte. Il se tut jusqu'à la fin du massage. Ce qui ne dérangea pas plus Saskia que son monologue. Tout lui allait, qu'il la courtise, qu'il boude, qu'il tente de l'éblouir, qu'il lui offre des fleurs, qu'il ait l'air désespéré, elle ne semblait même pas remarquer ses variations de comportement. En revanche, elle observait son dos avec la plus extrême vigilance. Un lundi, elle lui dit
« Vous n'avez pas fait vos exercices ce week-end. »
« En effet, il ne faut plus oublier. » Vous êtes en train de vous construire une musculature dont dépend la suite de votre vie. 2 jours de relâche, c'est beaucoup de temps perdu. J'aime être bossu. Toucher la bosse d'un bossu, cela porte bonheur?
Les bossus mourraient prématurément d'asphyxie. Ce n'est pas ce que vous voulez, non?
L'écrivain italien Eri De Luca suggère qu'un bossu est un homme à qui des ailes sont en train de pousser dans le dos. C'est très joli, mais c'est faux. Je vous demande de prendre mes consignes au sérieux.
Encouragé par le ton plus véhément que de coutume de la kinésithérapeute, Déoda se crut autorisé à lui écrire une lettre d'amour qu'il déposa sur son bureau à la fin de la séance suivante. Le lendemain, elle le reçut avec sa bienveillance habituelle. Il attendit le massage pour lui parler.
« Vous avez lu ma lettre ?»«
Oui. » »«
Et comment avez-vous l'intention d'y réagir ?»«
Comme vous voyez. » »«
Cela vous est complètement égal que je sois fou amoureux de vous ?»«
Ce n'est pas ce que je disais. » »«
Vous disiez quoi au juste ?»«
Rien. » »«
Vous allez me pousser au suicide ?»«
N'y pensez pas. » »«
Qu'est-ce que cela peut vous faire ?»«
Vous êtes mon patient. »
Cette réponse le stupéfia. Elle sembla aussi étonnée que lui par ce qu'elle avait dit. Il profita de cette brèche dans la carapace de la kinésithérapeute pour se redresser, l'attraper et l'embrasser.
Elle ne se débattit pas, ni lors du baiser, ni lors de ce qui suivit. Il la trouva même plutôt enthousiaste.
« Vous acceptez cela de tous vos patients ?»«
C'est la première fois. »«
Pourquoi ?»«
Je ne sais pas. Vous ne m'avez pas laissé le temps de me poser la question. »
Ce devint une habitude. 5 fois par semaine, au terme de la séance, à la place du massage, il faisait l'amour. Comme il était le dernier patient de la journée, cela ne dérangeait pas son planning. Pour autant, il ne fallait pas s'éterniser. Saskia voulait rejoindre son mari.
« Vous l'aimez ?»«
Ça ne vous regarde pas. » »«
Et moi, vous m'aimez ?»«
Ça ne vous regarde pas. » »«
Si, un peu quand même. »
Elle était très douée pour s'en aller sans répondre. Déoda la regardait s'éloigner à la hâte. « Une pinsonne !» Seule la pinsonne est capable d'un coup pareil. Aucun autre oiseau ne commettrait cette infidélité. Il observait son comportement à l'aune des mœurs aviaires. D'abord parce qu'il l'aimait, ensuite parce qu'elle échappait à toutes les règles de l'adultère humain. À l'évidence, Saskia n'avait pas mauvaise conscience. Elle n'était pas déchirée. Quand il couchait avec elle sur la table de massage, il voyait bien qu'elle n'éprouvait pas l'ombre d'un état d'âme.
« Cela vous suffit ?» Vous n'avez pas envie de mieux me connaître ?
Elle haussait les épaules, aucun mépris dans son attitude. Elle couchait avec lui, voilà, pas de quoi en faire une affaire. Il l'admirait pour cela. Comme il aurait voulu à son exemple avoir les mœurs du pinson. Il souffrait de son attachement humain à cette femme si équilibrée qu'elle en était inhumaine. Et il se maudissait d'avoir tant reproché à ses amis passés leur insatisfaction. Il aurait pleuré de joie si Saskia avait manifesté un peu de ce qu'il avait pris pour la tare féminine par excellence et dont il incarnait à présent le pendant masculin. Oui, il était profondément insatisfait de cette liaison. Et il s'indignait que la kinésithérapeute s'en contentât. Et quand il s'en plaignait auprès d'elle et qu'elle finissait par lui dire ce que lui-même avait dit 1000 fois en pareil cas, « Nous devrions peut-être arrêter », il souffrait le martyr. « Tu récoltes ce que tu as semé », pensait-il, et loin de le consoler, son raisonnement le suppliciait. Comme il était horrible d'aimer. « En amour, il y en a toujours un qui souffre et l'autre qui s'ennuie », disait l'adage. Il avait tant de fois été celui qui s'ennuyait, et à présent, il découvrait l'autre rôle avec effroi. Il regrettait l'ennui, cette posture si élégante et douce, si étrangère à l'humiliation qu'il vivait désormais. « Vous ennuyez-vous avec moi ?»
Non, jamais.
Normal, c'est une pinsonne. Il faut que j'arrête de projeter sur elle des sentiments humains. Et vous ennuyez-vous de moi quand je ne suis pas là ?
Les yeux de la pinsonne s'arrondirent d'étonnement, ce qui constituait une réponse éloquente et désespérante. Tant de fois, il avait enjoint à ses amoureuses passées de voir ce qu'elles avaient au lieu de déplorer ce qu'elles n'avaient pas. Pris à son propre jeu, il mordait la poussière. Sort étrange que le mien. Je me passionne pour les oiseaux depuis mon enfance, et maintenant que je suis amoureux d'une oiselle, c'est la catastrophe. Par ailleurs, il ne pouvait s'empêcher de persévérer dans son entreprise de séduction. Quand il exécutait avec elle les exercices censés lui muscler le dos, il tentait de l'éblouir par sa conversation. Il lui raconta sa conférence à la Ligue de protection des oiseaux, en présence d'Alain Bougrain-Dubourg et de ses pairs. Il avait exposé le contenu de sa thèse sur la huppe fasciée. Cet oiseau abondait dans l'Égypte des pharaons, où son aspect étrange suscitait la méfiance. Fallait-il voir en lui l'ennemi du faucon russe ? une commission de prêtres parmi les plus sages se réunit pour discuter de cette grave question, avec à la clé un projet très sérieux d'extermination de cet oiseau, dont le couvre-chef semblait une parodie de celui des souverains en place. Ce fut le moment que choisit l'une des plus fameuses plaies d'Égypte pour venir s'en donner à cœur joie. Des nuées de sauterelles ravagèrent la moitié des récoltes et auraient certainement dévoré l'autre moitié si des colonies de huppes, alléchées par ces délicieux insectes, ne les avaient préalablement avalées. Dès lors, les hiérarques changèrent d'avis à 180 degrés au sujet de cette espèce. Si, comme les souverains, la huppe portait le pchinte, ce n'était pas par dérision, mais au contraire pour le glorifier. Cet oiseau protégeait les pharaons de toute éternité, d'où la prospérité de la Haute et de la Basse Égypte. Fallait-il l'élever au rang de divinité? Non. Horus était déjà l'oiseau dynastique. Il ne fallait pas tout mélanger ni susciter la jalousie des faucons dont on avait également besoin. Alors, la huppe fasciée eut droit au deuxième adoubement le plus colossal après la divinisation. Elle devint un hiéroglyphe. Bien évidemment, l'hiéroglyphe à son effigie ne signifiait pas « huppe fasciée ». C'eût été trop simple. Mais en fonction des contextes de cette langue archi-complexe, protection ou bien l'adjectif « glouton » ou encore un terme peu aimable pour se moquer des bègues. Sans doute, par allusion onomatopéique à son cri que l'on notait « upupa ». Déoda terminait sa thèse par ce constat désabusé sur les gouvernements qui n'avaient pas évolué depuis l'époque des pharaons. Aussi longtemps que les dirigeants ne voyaient pas de raison concrète de sauver un oiseau, il ne se passerait rien. On pourrait s'époumoner en discours beaux, nobles et justes sur le fait qu'une espèce n'a pas besoin de servir à quelque chose pour être préservée, on prêcherait dans le désert. Aux politiques, il fallait parler leur langage, sauf à ne pas être entendu. C'est à cela que la huppe fasciée avait dû son salut. Les invasions de sauterelles restaient d'actualité, et il n'y avait rien de tel pour terrifier les gouvernements. À 25 ans, me voici chargée d'affaires à la section parisienne de la Ligue de protection des oiseaux. Il y a des huppes à Paris? Non, mais il y a des gens huppés que l'on peut convaincre de verser des fonds à la LPO,